Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bienvenue dans l'émission On en parle sans tabou, votre émission de témoignages autour de sujets de société. Je suis Loïc Joaquin et ensemble, aujourd'hui, l'islamophobie en France, on en parle sans tabou. Top jingle. Même si aucun recensement de la population en fonction de la religion n'est établi, des études démographiques montrent qu'en France, seulement 10% de la population se déclarerait musulmane, ce qui ferait de l'islam la seconde religion représentée dans le pays derrière le catholicisme, qui serait, elle, représentée à hauteur de 29% selon l'INSEE. Malgré le fait que ces chiffres ne soient pas exhaustifs, on peut apercevoir un engouement, voire un acharnement de la scène médiatique, mais aussi de la scène politique, à l'encontre de cette religion qui, on peut se le dire, apporte un regard stigmatisant qui tourne autour du terrorisme, du droit des femmes ou encore du prosélytisme. Aujourd'hui, pour en parler, nous avons le plaisir et l'honneur d'être avec le docteur Fanny Boermotti, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, psychologue, psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages, notamment « Tout commence par une pensée ». Salut Fanny.
Bonjour Loïc, bonjour Nesrine, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui comme d'habitude.
Merci, nous aussi, très heureux de te recevoir. Et cette émission ne serait rien sans témoignage sur ce sujet. Nous recevons aujourd'hui Nesrine Elini, 17 ans, lycéenne en bac pro accueil et musulmane.
Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Ça va Loïc ?
Ça va et toi ?
Ça va Fanny ?
Oui, très bien.
Alors, j'ai envie de commencer cette émission avec, par le commencement, le début de ton entrée dans la religion, le début... Du port du voile, parce qu'on peut le dire, tu portes le voile.
Oui, oui. Alors moi, j'ai commencé à porter le voile, c'était le 29 avril 2022, j'avais 15 ans. Donc j'étais super jeune, et pour moi, le voile, à cette période-là, je comptais vraiment pas le porter. Moi, c'était vraiment un projet plus tard, et encore, c'était pas du tout dans mes ambitions. Donc ça a vraiment bouleversé ma vie. En fait, si j'avais su tout ce que ça allait engendrer, j'aurais plus réfléchi à ce choix-là et je me dis peut-être que je ne l'aurais pas porté. Donc du coup, voilà. J'explique comment...
Comme tu le sens. Alors moi, tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à porter le voile et à...
Ok. Donc moi, avant ma transition, j'étais une fille... je portais des crop tops, enfin... Je montrais beaucoup mon corps et pour moi, le voile, c'était vraiment pas dans mes objectifs. Et il y a la période du ramadan. Et la période où je me suis voilée, c'était les 10 derniers jours du ramadan. Sachant que dans ma religion, les 10 derniers jours du ramadan, c'est très très important d'un point de vue islamique. Donc moi, j'avais commencé la prière et prière, qui dit prière dit voile. Donc, je suis partie acheter des voiles à Belleville. Et donc, de là, j'ai acheté une tenue qui s'appelle un gilbeb. Et c'est vraiment les tenues toutes... Enfin, le voile, il est accroché à la robe, quoi. Et quand je suis rentrée, je l'ai essayé. Je me suis dit, ça n'est plus jamais, j'enlève. Ça a vraiment été un déclic. Et maintenant, je le porte. Et je suis très heureuse de le porter, malgré tout ce que je subis. Je suis très, très heureuse de le porter.
Et tu me disais en off que le voile, c'était un peu aussi une protection pour toi.
Ouais. Alors, moi, je trouve qu'en tant que musulmane, c'est une protection dans le sens, dans les endroits, il y a des endroits que je ne peux pas fréquenter, que je porte le voile. Plein de choses. En fait, d'un point de vue religieux, le voile, c'est vraiment une protection. Et je me sens bien quand je sors, je porte mon voile. C'est comme un bouclier. Je ne saurais pas expliquer. C'est vraiment, je sais pas, je suis contente de le porter. Et quand je sors avec, c'est une fierté. C'est moi, quoi. C'est mon voile. C'est ma fierté.
Ça fait partie de
toi. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi, mon voile.
Et au début, quand tu as décidé de porter le voile, avant, tu te considérais aussi musulmane.
Oui.
Mais tu n'avais pas encore, pas encore tous les enseignements.
Je connaissais vraiment rien de la religion. Pour moi, c'était juste croire en Dieu. Pas manger de porc, etc. Mais pour moi, le voile, c'était vraiment une option. Et dans ma tête, c'était pas une obligation. Sachant que avant le voile, j'étais vraiment, si je peux dire, une musulmane n'est pas pratiquante. Je peux dire ça comme ça. Vraiment, je connaissais rien de la religion. Et bah là, du coup, je porte le voile, je prie, j'ai un peu plus de science islamique. Donc, voilà.
Et au début, encore une fois, avec tes parents, comment ça s'est passé ?
Alors moi, ma mère, elle n'est pas voilée. Elle est très, très coquette, très... C'est mon opposé, là, là. Si on voyait elle et moi, on se dit pas que c'est ma mère. On se dit plus que c'est ma copine, c'est ma sœur. Et j'ai déjà eu des réflexions comme ça. Donc, on nous le dit souvent. On lui dit, ta fille, elle est voilée. Toi, t'es pas voilée. Donc, du coup, quand j'ai annoncé ça à ma mère, je me suis dit, ça va peut-être plus lui faire un choc pour elle que vis-à-vis de mon père. Parce que mon père, il prie. Et il prie bien avant ça. Et au contraire... ma mère, elle a super bien réagi, sachant qu'elle ne le porte pas. Elle a super bien réagi, elle a été vraiment là face à mon choix, sachant que mon père, il ne voulait pas que je le porte. Quand je lui ai annoncé, ça lui a fait un choc parce que la veille, j'étais en crop top. Le lendemain, je suis voilée. Ça lui a fait un choc et il avait peur par rapport à la société. Il m'a dit, ouais, t'es pas armée mentalement. Enfin, il savait, mon père, il savait déjà ce que j'allais subir. Il savait parce qu'il entendait parler. Dans ma famille, j'ai une cousine à moi qui s'est fait pousser dans les rails du métro parce qu'elle porte le voile. Elle, c'est plus les tenues, le gilbet. Donc, elle, c'est vraiment les tenues ensemble.
Entière.
Ouais, voilà. Donc, il s'est dit, ma fille, elle porte le voile. Elle est en danger un peu face à cette société. Donc, il a eu peur. Et il n'a pas trop compris ma décision parce que du jour au lendemain, je me suis voilée et ça lui a fait un choc. Mais ma mère, elle a vraiment été là pour moi, sachant qu'elle ne le porte pas. Et quand j'ai annoncé ça à ma famille, que comme quoi ma mère, elle a été là pour moi, sachant que mon père, lui, il avait plus peur, ça a fait un choc parce que ma mère, vu qu'elle ne le porte pas et mon père, il prie, il est dans la religion, on s'attendait plus que ce soit mon père qui est là face à ce choix-là.
Ouais. Et tu as des sœurs ?
J'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur et un grand frère et un petit frère.
Et qui, ta petite sœur qui porte le voile aussi ou...
Non, elle est jeune, elle a 10 ans.
Ok. Et je vais me tourner vers toi, Fanny. On a un peu ce discours de « je me sens bien, protégée, ça fait partie de moi ». Qu'est-ce que tu penses de...
Je pense que ce que Nesrine dit, c'est ce que la société française doit entendre. Il n'y a pas de route linéaire qui mène à porter le voile. C'est chaque femme, face à ses choix, à sa décision... son rapport à la religion, à la spiritualité. Et c'est peut-être ça qui fait que justement en France, il y a une forme d'islamophobie, parce qu'il y a une ignorance du choix qui peut mener tout être à vouloir faire ses propres choix, je dirais religieux, mais aussi spirituels. Et là où la France va parler d'un islam politisé qui mènerait au voile, en fait, quand on entend des femmes, des jeunes filles qui portent le voile, ce qu'on entend, c'est un cheminement, c'est une idée de protection, une idée d'élévation aussi, qui n'a rien à voir... avec un autre terme qu'on entend beaucoup en France, la question de la soumission ou la soumission aux hommes. Parce que quand on entend Nesrine, on entend une femme autonome, indépendante, qui a fait son choix. Et donc c'est important ce genre d'émission, effectivement, parce que ça enlève un peu de cette ignorance qui fait qu'on nie ce que peut être le voile dans la vie d'une femme, à savoir un outil de libération et d'identité aussi. On peut devenir soi parce qu'on décide de porter le voile, son voile.
Alors c'est marrant, on a cet aspect de protection. Mais en même temps, il y a ton père qui te met en garde un peu, qui te dit « ouais, en gros, tu ne seras pas protégé vraiment en portant le voile, au contraire.
»
Et comment toi, tu arrives à faire la part des choses mise en garde de ton père et ce ressentiment que tu as ?
Au début, ça a été compliqué. En fait, je ne comprenais vraiment pas cette décision. Et au fur et à mesure, il a compris pourquoi j'ai pris du temps. Et au fur et à mesure aussi, il a eu raison. Et au début, quand je sortais avec, j'ai rien eu. Au lycée, il ne s'est rien passé et tout. Mais quand il me voyait rentrer des cours, que je pleurais, il s'est dit, ma fille, j'avais raison. Et en fait, j'aurais dû l'écouter dès le début. Et moi, je me suis dit, non, papa, t'écoutes trop les médias. Voilà, c'est un cas sur je sais pas combien. Mais en fait, il avait raison dès le début. Et en fait, j'aurais dû plus prêter attention à ce qu'il me disait.
Mais justement, on va parler un peu des regards extérieurs. parce que tu as été confronté au regard extérieur et il y a eu des confrontations, notamment physiques, de la part des gens.
Oui. Je m'en rappelle. Bah, du coup, moi, je suis en terminale. Je sais pas si je l'ai dit au début. On fait des cours de sport en dehors du lycée. Donc, on va dans des gymnases. Et en sortant du gymnase, j'étais avec deux copines à moi. Et il y a une dame qui s'approche. Et nos chemins se croisent. Elle arrive face à moi. Et elle me dit « Bouge ». Moi, je lui dis « Bah, il y a des manières de le dire, madame. » Sachant qu'il y avait mes deux copines. Et elle aurait pu foncer sur mes deux copines. Mais bon, toujours le bon soupçon. Je lui dis « Bah, il y a des manières de me le dire. » Elle me dit « T'es plus grande que moi, tu me dois le respect. » Je dis « Mais encore une fois, il y a des manières de le dire. » Donc de là, elle me bouscule et elle m'insulte. Elle me dit « Pauvre conne. » Et elle me bouscule, elle m'insulte. Et moi, mes deux copines... En fait, moi, ça, c'était pas la première fois que ça m'arrivait... c'était la première fois que ça m'arrivait une confrontation verbale. Que quelqu'un me touche, c'était la première fois. Mais... une confrontation physique, pardon. Mais une confrontation verbale, c'était pas la première fois. Donc, moi, en fait, je suis arrivée à un stade où je réagissais plus. Donc là, moi, mes deux copines, elles la poursuivent. Elles disent, mais ça va pas ou quoi? Et moi, en fait, j'ai rien dit. Parce que ça y est, j'ai encaissé. Vu que c'était pas la première fois, bah ça y est, je disais plus rien. Et j'ai laissé faire. Et je me suis dit, peut-être qu'elle, elle a un statut. Peut-être qu'elle est avocate. Parce qu'il y a des gens qui se permettent certaines choses. Du coup, bah, je me suis dit, bah, c'est mieux que je dise rien. Et voilà, j'ai laissé faire comme d'habitude. Là, je suis arrivée à un stade où je laisse faire, je dis plus rien, sachant que même au lycée, je suis pas entendue. Quand il m'arrive certaines choses au lycée, bah, je suis pas entendue. Donc, je laisse faire et de toute façon...
Fanny, de son discours à Nesrine, comment on fait pour s'armer face à cette violence, que ce soit verbale, parce qu'il y a eu beaucoup de violence verbale, du coup, comment on fait, comme toi, tu travailles beaucoup sur la pensée, sur les choses positives, comment on fait pour s'armer face à ça?
Alors, il y a plusieurs chemins, mais un des premiers chemins, je pense, c'est quand même de connaître ses droits. Parce que se laisser faire peut entraîner, après, une forme d'anxiété quand on sort dans la rue, ou une impression, finalement, qu'il peut tout nous arriver. Alors que finalement, même si elle était avocate ou je ne sais quoi, en fait, elle est hors la loi d'insulter une lycéenne ou d'insulter qui que ce soit parce que cette personne porte le voile. Et en France, avec les discours politiques et médiatiques qui nous font un peu oublier qu'il y a des droits et des lois, eh bien, de nombreuses personnes, justement, ne savent pas qu'en fait, il y a une interdiction, que c'est un délit, le racisme est un délit, c'est pas un choix, et l'islamophobie est aussi un délit. Là aussi, en France, on a volé la terminologie de l'islamophobie dans le sens où on dit souvent que l'islamophobie n'existe pas, mais ça, c'est un discours purement français. Parce qu'en fait, l'islamophobie, qui est la peur de l'islam, ou comme la xénophobie, une espèce de pathologie par rapport à l'autre, ça existe. Et quand il y a des passages à l'acte violent ou verbal, c'est un délit. Donc moi, je conseille quand même, quand on le peut, de filmer pour pouvoir garder trace de la personne qui a fait l'acte, et puis d'aller tout de suite au commissariat porter plainte. Et d'en revenir à la loi, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se régleront quand même par la loi et par le droit, et qu'il y a certaines personnes, il faut qu'ils se fassent au fait que, par exemple, porter le voile dans certains espaces est autorisé, et ils doivent s'y faire. Et par contre, insulter ou être raciste n'est pas autorisé, et ils doivent s'y faire aussi. Le deuxième point, c'est que ça me rend triste d'entendre ce genre de témoignages, déjà parce qu'ils sont très courants, et qu'en fait, on fait du mal aux citoyennes françaises, Nesrine est française, et on lui fait du mal à partir de sa manière d'exister dans ce monde. Et moi, dans mon cabinet, en France spécialement, j'ai vu vraiment une recrudescence de femmes qui souffrent de comment certaines personnes en France peuvent être par rapport à leur voile. Alors il y a aussi le fait, justement, elle parlait de quelqu'un de sa famille à qui on a poussé sur les rails, c'est gravissime. Mais il y a aussi des crachats, par exemple, dans la rue, des femmes qui se sont fait cracher dessus, ou on leur dit des horreurs sur leur physique, sur qui elles sont. C'est extrêmement violent. Et au-delà de l'aspect raciste, c'est aussi, finalement, une imposition sur la femme. En quelque part, c'est comme si la femme n'était pas vue comme assez décidée et grande pour décider pour elle-même comment elle veut se vêtir, comment elle veut se mouvoir dans l'espace social. Donc je trouve ça choquant. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas se laisser faire. Il faut vraiment passer par le droit, et que c'est ce qui peut aider les femmes qui portent le voile psychiquement. Vraiment connaître leurs droits, prendre de plus en plus d'espace dans l'espace social, prendre de l'espace aussi dans certains types de métiers, pour que petit à petit, en ayant plus de pouvoir, eh bien, on puisse essayer de rendre les choses plus équitables. Il y a d'autres pays où, quoi qu'on en dise, c'est plus équitable. Moi, je suis entre la France et l'Angleterre, et en Angleterre, à Londres notamment, quand on voit comment les différences culturelles et religieuses sont traitées, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'actes de discrimination. Donc c'est peut-être ça que la France doit viser, qu'en fait, finalement, on soit tous en maîtrise de nos propres droits. Et même si toi, Nesrine, à 17 ans, bah, tu as déjà vécu beaucoup dans ce que tu racontes, il faut peut-être que dès maintenant, tu te renseignes sur ce que la société nous doit, te doit, en termes de droits, parce qu'il y a des devoirs et des droits, et que justement, tous ces actes-là, il faut ne plus jamais les laisser passer.
Justement, tu parles de la France et de l'Angleterre. En Angleterre, ça, est-ce que dans la scène médiatique et politique, on est autant axé sur la question de la religion musulmane? Comme en France, on a eu beaucoup de débats autour du port du voile, et notamment aussi avec les dernières lois par rapport à l'abaya, on en reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'en Angleterre, ça se passe comme ça ou c'est différent?
En Angleterre, c'est tout à fait différent. En fait, en Angleterre, il y a du racisme aussi, mais c'est un racisme qui vient du bas et qui ne vise pas essentiellement les musulmans, ça peut viser un peu tout le monde. Et c'est vraiment combattu par le haut. Par exemple, une personne qui dit dans la rue un mot raciste, si la police est là et que tu vas voir la police ne va pas laisser passer la personne, elle va au moins être emmenée au commissariat. Donc c'est pris extrêmement au sérieux. Et en plus de ça, la société est habituée à l'altérité. Tu vas voir des personnes qui portent le voile, mais tu vas voir les sikhs qui vont porter leur bandeau. Tu vas voir les personnes de confession juive qui porteront la kippa. Les gens ne se regardent pas du tout. On est vraiment très habitué à être une société plurale. En France, j'ai l'impression que malheureusement, c'est un racisme institutionnel qui vient du haut quand même. C'est-à-dire que les gouvernements ou certains médias ont développé une autorisation de dire tout et n'importe quoi sur l'islam. Mais quand tu regardes, entre guillemets, entre nous, quand tu regardes la société telle qu'elle est, il n'y a pas tant que ça de racisme ou d'islamophobie. C'est vraiment une islamophobie pour moi qui descend vers le bas, et les gens qui ignorent l'islam s'autorisent à haïr quelque chose qu'ils ne connaissent pas parce qu'il y a une forme d'autorisation. C'est pour ça que c'est très dangereux en France, cette manière finalement d'avoir véhiculé un certain dialogue autour de l'islam, d'avoir empêché aussi certains de parler sur l'islam. Donc on en vient finalement à une société et à une France qui a répété pour moi une histoire traumatique, parce que quand même la France, c'est pas la première fois qu'elle a un problème avec l'altérité. Donc on en vient toujours à ce même problème. Pourquoi en France est-ce si difficile d'accepter qu'il y ait un autre, et que cet autre c'est aussi un peu soi? Parce que les musulmans, ils sont français. Ceux que l'on vise aujourd'hui et ceux à qui on demande de se taire, c'est des Français.
Nesrine, je parlais de la baya tout à l'heure, la loi de l'actuel Premier ministre qui était à l'époque ministre de l'Éducation, qui a fait passer en août 2023 l'interdiction du port de la baya à l'école. Pour toi, ça a été aussi un changement. Et d'ailleurs, tu vas un peu nous parler de ce qui se passe à l'école.
Alors, même avant la baya, je m'en rappelle que je préfère en parler maintenant, comme ça, après, j'oublie pas. Le premier jour des cours, parce que j'ai changé de lycée, et ma transition, en fait, elle n'a pas été faite dans ce lycée-là. Et donc, le premier jour, on avait un jour d'entretien, et moi, c'était la rentrée, moi, je portais déjà mon voile. Donc, jour d'entretien, ma prof principale, professeur de droit économie, j'arrive avec un ensemble chemise et pantalon, et j'avais un petit bandeau, il devait faire 10 cm de large, et elle refuse de me dire bonjour. Et elle me dit, tu m'enlèves tout de suite ça, ta tête. Moi, je suis professeure d'économie droit. Le bandeau, c'est pas plus de 10 cm. Je réponds bonjour. Et elle continue à me crier dessus. D'accord. Donc là, je passe l'entretien. Suite à ça, au milieu de l'entretien, elle me demande si je suis voilée. Sachant qu'on n'a pas le droit de demander ça durant un entretien. Mais moi, sur le moment, je suis passée outre, donc je réponds que oui. Et elle le souligne sur sa feuille, elle écrit « voilée », elle le souligne 3 fois.
Ah oui.
À la fin de l'entretien, je me lève et elle me dit « Ah, quand même, t'es bien foutue, c'est dommage que tu t'habilles en large. » Ok, d'accord, je pars.
C'est une prof qui te parle.
C'est une prof de droit. Donc, Et cette prof-là, jusqu'à la fin de l'année, elle ne m'a pas lâchée. Elle ne m'a pas lâchée avec une autre prof de mathématiques. Je reviendrai dessus sur la prof de mathématiques. Et donc, du coup, par rapport au port de la Baïa, un jour, je suis venue en cours avec une robe à fleurs. C'était vraiment une robe et c'était pas une abaya parce qu'il y avait des motifs de fleurs, elle était cintrée au niveau de la taille. C'était vraiment une robe. Quand je l'ai achetée, c'était une robe. Et je sors de chez moi et ma mère, elle me dit tu vas te changer parce que c'est sûr qu'ils vont te faire une réflexion par rapport à ça. Je dis mais maman, n'importe quoi, c'est une robe, ils vont rien me dire. Donc moi, j'y vais et je me dis quand même, je vais prendre mes précautions, je vais enlever mon voile. Bien avant d'arriver au lycée, comme ça, quand j'arrive, ils vont dire, ils vont pas dire ah elle déjà elle est voilée, etc. Donc j'arrive, ils me disent rien du tout. J'ai eu des profs à moi, elle est super ta robe, elle est super belle, tu l'as achetée où, etc. La pause du midi, je reviens, sauf que là, j'avais oublié d'enlever mon voile bien avant de rentrer au lycée. Donc là, j'enlève avant de rentrer au lycée. Donc il y avait la CPE. Elle me regarde de haut en bas, elle me dit tu reviens plus avec cette tenue là, c'est limite. Et moi je lui dis mais c'est une robe. Et elle rentre dans le conflit, etc. Donc, j'ai rien dit. J'ai dit, bon, d'accord, je reviendrai plus avec cette robe. Et vraiment, hormis les robes, etc., y avait des tenues que je ne pouvais pas porter. Des tenues larges, alors que ce n'était pas des abayas. C'était vraiment pantalon large. Mais c'était limite. Et j'ai une copine à moi qui s'appelle Tasnim, qui mettait au bout d'un certain moment, pendant le ramadan, elle mettait des vêtements amples. Et il y a une surveillante qui vient lui dire « Ah, toi, tu vas porter le voile comme ta copine parce qu'elle porte des vêtements amples, mais chacun fait ce qu'il veut. » Et du coup, voilà.
C'est à partir de là que tu as été identifié, à partir de ce moment-là, où tu as enlevé ton voile juste devant l'école, que tu as été identifié comme une fille qui porte le voile. Mmh.
Et si cette robe-là, ça avait été une autre personne, ils auraient rien dit. Parce qu'il y avait une fille qui ne portait pas le voile et qui est venue en abaya noire, et c'était bien une abaya, et ils lui ont rien dit, alors que c'était vraiment une abaya, et moi c'était une robe. Mais il y a vraiment une discrimination, et aussi, bien avant la loi qui a été mise en place, je portais des manteaux kimono. Donc j'arrive avec mon manteau kimono noir, etc. Je préfère préciser qu'il est noir.
Manteau parce kimono, que... tu peux un peu décrire pour...
C'est, moi, c'est un manteau qui est ouvert... Et style kimono avec les manches...
manches larges.
Ouais, des manches larges. Et il est large, le manteau. Il était de couleur noire. Donc, j'arrive avec. Je passe ma journée, etc. Il y a une personne qui va me signaler à la direction. Donc, on me convoque. On me dit, tu portes plus ce manteau-là. Ça pose problème. On a eu plusieurs plaintes et tout vis-à-vis de toi. Je dis, mais pourquoi c'est un manteau ? On me dit, non, c'est très bien pourquoi tu le portes. Donc, tu le portes plus. Si tu veux porter, t'en portes d'une autre couleur. Ok, d'accord, moi j'en avais d'autres couleurs. Donc, je reviens une semaine après avec une autre couleur, beige cette fois-ci. Et on vient et on me dit, si tu veux le porter, tu mets une ceinture avec. Mais je ne vais pas mettre une ceinture avec un manteau. C'est ridicule. Donc, suite à ça, je ne l'ai plus porté. Et sachant que ce manteau-là, il était devenu à la. Enfin, c'était la mode de porter ce manteau-là. Toutes les personnes non voilées du lycée avaient le droit, sachant que même une surveillante, elle l'avait acheté. Toutes les personnes du lycée avaient le droit de le porter, sauf moi.
C'était vraiment de l'acharnement.
Ouais, vraiment. Toi. Moi, j'avais pas le droit. Vraiment, on m'a dit, oui, on va convoquer tes parents. Et ils ont été, suite à ça, ils ont été appelés mes parents par rapport à un manteau. Alors que la plupart des filles de mon lycée l'ont acheté et l'ont porté.
Fanny, comment on... Niveau... parce que là, on voit qu'il y a aussi les institutions. Qui sont dedans là, c'est le, on parle de CPE, de surveillante, de professeur. Comment on s'arme psychologiquement pour faire face à tant d'acharnement? Là, on voit que Nesrine abandonne des tenues parce que on lui interdit. Mais comment on s'arme psychologiquement pour faire face à ça?
Alors, je pense qu'il faut beaucoup de patience et se dire que le temps passant, justement, sorti du monde scolaire. Quand tu commenceras à avoir un métier, à pouvoir agir, déjà là, l'institution aura moins de pouvoir sur toi. Mais effectivement, parfois, il y a des rapports de force. Il faut toujours que la personne se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans ce type de rapport de force ? J'avais rencontré quelqu'un récemment qui suivait des études à l'université et on lui avait interdit de passer certains examens et ces examens étaient importants pour elle, elle portait le voile. Et sa réponse à elle, c'est qu'elle a mis un bandeau et puis une perruque. Donc, ils n'ont pas pu repérer que c'est un voile, puisqu'ils ont vu des cheveux. C'est une forme de réponse qui est comme finalement un compromis. Mais ça peut exister de mettre en place une certaine manière d'exister, de vivre sans se faire repérer. Mais ça reste triste quand même. Ça reste triste parce que ça veut dire qu'on demande encore une fois aux femmes et aux jeunes filles de quelque part, de prendre en compte la manière dont on se trompe sur elle. Parce que là, il y a vraiment une falsification, encore une fois, de ce qu'est le voile. C'est parce qu'en France, il y a cette espèce de fantasme du voile politique, de l'islam politique, des frères musulmans qui se répandraient dans la société. Fantasme qui était étayé par des recherches qui sont finalement très, très, très fausses, très erronées, comme regard sur la société française. Et donc, il y a des gens, ils pensent pas mal. Vous parlez à la surveillante, peut-être qu'elle dira « Mais oui, mais Nesrine, elle est encore très jeune, elle se fait manipuler, elle se fait influencer. » Ils sont en fait dans des espèces d'idées que interdire à une jeune fille de porter le voile, c'est en fait l'aider à rester autonome. Et à aucun moment, ils se disent que l'autonomie de la pensée passe par le fait que la femme puisse décider ou la jeune fille puisse décider dans son mouvement, dans son cheminement. On laisserait les femmes tranquilles, peut-être que certaines mettraient le voile tranquillement, d'autres l'enlèveraient. Peu importe, en fait, ce serait un chemin singulier pour chaque personne. Là, finalement, ce racisme institutionnel, ce qu'il crée, c'est des rapports de force avec constamment, finalement, un côté qui est perdant, puisque dans le monde scolaire, effectivement, si tu ne retires pas ton voile en certains moments, eh bien, tu dois le quitter ou tu dois renoncer aux études. Or, la solution, c'est quand même prendre de plus en plus de pouvoir. Les lois, elles sont faites par les hommes et toutes les lois qui ont changé, ça a été fait, elles ont changé parce qu'il y a eu des résistants ou des personnes qui se sont opposées, qui ont combattu sur le plan légal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense vraiment que tout doit se passer sur le plan légal. Je pense qu'il doit y avoir des regroupements, et pas que des regroupements de personnes musulmanes, des regroupements citoyens où on impose finalement une société égalitaire, déjà où finalement on n'a plus le droit de commenter et de scruter le corps de la femme. Moi, je suis choquée quand j'entends une professeure qui peut te dire, Nesrine, quelque chose sur ton corps. Quelle est sa névrose pour être capable de commenter? Déjà, commenter, c'est voir. Ça veut dire qu'elle regarde ton corps et qu'est-ce qu'elle se dit? C'est complètement déplacé. Mais vous voyez, on parle du voile qui serait politique et les réflexions deviennent physiques. On est dans vraiment un illogisme pur. Et donc, la première question, tu me disais comment faire, comment s'armer psychologiquement. Je dirais la patience. C'est-à-dire que ce ne sera pas toujours comme ça. Déjà, en grandissant, en prenant du pouvoir, les choses changent. Nos combats collectifs amènent aussi du changement. Ensuite, de se dire que la France a besoin d'oxygène et que cet oxygène, elle peut passer par le fait d'aller voir comment ça se passe ailleurs et puis de revenir. Parce que dans d'autres pays, ce n'est pas du tout comme ça. Et que donc, toutes ces personnes qui souffrent de cette espèce d'islamophobie à la française, il est possible qu'en voyageant, qu'en visitant le monde, on réalise finalement qu'en France, il y a cette problématique et qu'on doit œuvrer pour changer cette problématique. Et ensuite, je pense qu'il faut quand même aller voir comment, en suivant les règles, en respectant les règles, s'opposer à chaque fois. Il y a des choses malheureusement qui sont légales. Je crois que maintenant en France, effectivement, on ne peut pas porter le voile partout. Mais il y a d'autres choses qui sont illégales. Le manque de respect, c'est illégal. Il y a beaucoup d'avocats qui sont sur le terrain, qui vont protéger gratuitement aussi les femmes et les jeunes filles qui vivent ce genre d'actes, qui sont de l'islamophobie. Donc il faut être capable de pouvoir repérer là où on peut se défendre et où il y a des combats qu'on va gagner, là où c'est une perte de temps et où il vaut mieux patienter, prendre sa place, prendre du pouvoir, étudier encore pour un jour être capable de taper du poing sur la table et d'être entendu.
Ouais, les recours légaux, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à mon sens. Tu m'avais raconté une autre histoire par rapport à une sortie.
Alors, cette sortie-là, c'était en début d'année. On est parti visiter le musée du Louvre et un autre musée. Et on avait un point de rendez-vous qui était à la sortie du métro dans le 14e. Donc, je sors du métro et je tombe sur ma classe. Moi, logiquement, je viens de sortir du métro, j'ai pas le réflexe de retirer mon voile. Donc, j'avance vers ma professeure, je lui dis bonjour. Elle me répond pas. Elle me dit, donc de là, je redis bonjour. Elle me dit, je te dis pas bonjour. Je dis, pourquoi ça? Elle me dit, c'est de la provocation, tu me retires tout de suite ce voile et tout. Et moi, j'étais sous le choc. Donc, ok, d'accord, je retire le voile. Bonjour Nesrine. Donc, ok, on passe la journée. Et je devais prendre le métro, les transports en commun, aller d'un point A à un point B sans mon voile. Sachant que j'ai trouvé un petit subterfuge. C'est pas bien, mais bon, c'est mon voile. En fait, je me sens pas bien sans mon voile. Et le fait, ça me dérange pas tant que ça, parce que ça, j'ai pris l'habitude de le retirer au lycée. Mais là, dans le métro, dans la rue et tout, quand je retire mon voile, je me sens vraiment... C'est comme si on m'enlevait tous mes vêtements. C'est vraiment... C'est un besoin pour moi. Donc de là, je décide de mettre ma capuche. Et il y avait un garçon de ma classe qui avait aussi sa capuche et un autre qui avait une casquette, etc. La professeure revient vers moi et me dit « Tu retires ta capuche, sinon je te mets un rapport tu verras ça avec la direction. » Je retire, quand elle n'est pas là, je remets, sauf qu'elle voyait entre-temps. Elle revient encore vers moi, je t'ai dit de retirer ta capuche, etc. Je dis, mais il y a tous les garçons de la classe qui ont leur capuche, leur casquette. Ok, d'accord, ça va être un rapport pour tout le monde. 2 semaines après, je suis convoquée par la direction. Bizarrement, il n'y a que moi. Les garçons de ma classe n'ont pas eu de rapport. Donc la directrice me convoque. Bonjour Nesrine, on a eu un rapport vis-à-vis de la sortie, etc. Ok, elle me dit prochaine fois, ça, c'est exclusion directement. Bon bref, elle me dit en vrai c'est normal. Enfin, ok, d'accord. Donc à partir d'un moment,
prends ton temps.
Elle me dit. Ta mère, elle a un cancer et toi, tu lui rajoutes encore avec ces histoires de voile. Et donc, de là, je m'effondre parce que je sais pas c'est quoi le rapport entre ma mère et le voile, etc. Donc, sachant que c'était le début et ma mère, on venait d'apprendre qu'elle avait un cancer, etc. Donc, moi j'étais vraiment sous choc qu'elle en parle. Et moi, en fait, vu qu'on. C'est le début que par rapport à ma mère, c'est un truc nouveau, donc le cancer et tout. Bref, donc là je m'effondre. Elle me dit, moi je connais plein de personnes musulmanes qui portent pas le voile, ok. Je sors du rendez-vous. Et là c'était vraiment le mot de trop par rapport à tout ce que j'avais vécu. Je me dis, dans ma tête, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je me suis dit, bah vas-y, je vais le retirer. J'ai pas envie, ma mère elle est malade. J'ai pas envie de lui rajouter des histoires par rapport au voile. Donc moi, je me dis, ça y est, je le retire. Bah, je préfère le retirer que faire encore des histoires, d'autres histoires, sachant que toute l'année, j'avais des histoires, l'année précédente, j'avais des histoires et tout. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais le retirer. Je rentre chez moi. Ma mère me dit rien. Elle était toute calme, etc. Donc, elle avait pas mal réagi. Donc, cette idée me passait. Mais c'était vraiment... cette idée, elle m'est passée. Mais c'était vraiment quand je suis sortie du rendez-vous. Je me suis dit, ça y est, je le retire. Elle me parle de ma mère qui a un cancer, sachant que c'était vraiment tout nous. Enfin, on venait de l'apprendre. Et c'était vraiment.
Personnel.
Ouais, voilà. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc voilà. Après, c'est passé. Mais ça a été vraiment compliqué, cette histoire de voile. J'ai aussi une prof de maths. Bah, du coup, je reviens dessus.
Ouais.
L'année précédente, j'avais une épreuve de maths pour le bac, c'est un CCF. Et en gros, c'est pour le bac, et vu qu'on est en bac pro, les épreuves, elles sont pas... Enfin, c'est en cours d'année.
Okay.
Et donc, du coup, je me présente et tout. À la fin de l'épreuve, elle dit, bah ok, je vous rajoute 5 minutes pour tout le monde. Sachant que pendant l'épreuve, elle aidait, alors que c'est une épreuve de bac et on n'a pas le droit d'aider. Elle aidait, elle m'a dit, Nesrine, toi, si je t'aide, je t'enlève moins 2 points. Ok, d'accord. Donc, à la fin de l'épreuve, elle rajoute 5 minutes à tout le monde. Moi, bizarrement, elle vient vers moi. Elle me dit, tu me passes ta feuille. Et sachant que cette prof-là, elle m'a fait la misère toute l'année. Je venais en cours, elle me refusait pas parce que je portais un petit bandeau. Au final, j'ai arrêté de le porter, ce bandeau-là, parce qu'il posait trop de problèmes et tout. Alors qu'il y avait plein de filles de ma classe qui le portaient, mais vu qu'elles n'étaient pas voilées. Ok. Elle me parlait, elle me disait, ouais, toi, tu te dis musulmane, toi, je sais pas quoi. Elle me refusait. Elle refusait que je vienne à certains de ses cours, comme ça. Je levais la main, elle me répondait pas, je posais des questions, elle m'ignorait mais complètement. Donc cette prof-là, elle m'a vraiment fait la misère tout au long de l'année. Et là, c'était l'épreuve de bac, donc je me suis dit, je vais pas calculer. Donc, arrivé à cette épreuve, à la fin, elle rajoute 5 minutes à tout le monde. Moi, elle me rajoute pas 5 minutes, elle me dit, tu me passes la feuille. Je lui dis, mais pourquoi vous avez rajouté 5 minutes à tout le monde, etc. Donc de là, elle prend ma feuille et elle me pousse un peu, enfin, elle était un peu violente physiquement. Elle me prend ma feuille et elle la prend. Et je ne saurais pas expliquer, moi j'ai dit le terme froisser. Mais quand on froisse une feuille, c'est vraiment avec les deux mains. Sauf qu'elle, quand elle l'a pris, elle l'a vraiment pris avec une main, elle l'a froissé d'une main. Genre elle l'a arraché quoi, la feuille. Donc moi je sors, je suis en pleurs et tout. Je vais voir la direction, je vais me plaindre, je vais leur dire. Et elle m'a dit, je ne te corrige pas ta copie. Elle m'a dit, je ne te corrige pas ta copie, tant pis pour toi. Je sors, je suis en pleurs. Je vais voir la direction, je me plains à la direction, voilà, la prof, elle a fait ci, elle a fait ça. Je me plains par rapport à tout ce qu'elle m'a fait depuis le début de l'année, j'ai tout dit. Je rentre chez moi. Ma mère reçoit un appel de la directrice. Elle lui dit, la directrice, votre fille est moins. Votre fille est moins, voilà, on a regardé l'état de la feuille, elle était nickel, il n'y a rien eu, etc. Donc moi, le lendemain, je repars, j'ai été convoquée. Et la directrice me regarde et me dit, tu mens, pourquoi t'as menti, tu veux faire l'intéressante, ok. Et là, bah, comme je fais d'habitude, je réagis pas. Je la regarde, je dis ok, oui, ok, je pars. Elle rappelle ma mère, elle lui dit, votre fille, bizarrement, elle a eu aucune réaction, donc je pense vraiment qu'elle a menti, alors que j'ai pas que ça à faire de mentir. Si j'ai pas de réaction, ça y est, c'est que je suis à bout. Je vais pas rentrer dans un conflit, alors que, voilà, ok, d'accord, donc... Je rentre chez moi, ma mère, elle me croit pas, elle me dit, pourquoi tu mens, t'en as pas marre de ces histoires, etc. Sauf que y avait des témoins dans la salle. Je dis, maman, je te jure que je mens pas, il y avait des gens. Et moi, je suis repartie encore le surlendemain, je suis repartie en cours, et les filles de ma classe sont venues me voir, elles me disent, Nesrine, ça va? Je dis, oui, ça va, pourquoi et tout? Elle me dit, mais on a vu ce qui s'était passé durant l'épreuve et tout, t'es sûre que ça va? Je dis, mais les filles, s'il vous plaît, allez voir la direction, allez leur dire, s'il vous plaît. Sauf que ça, c'était la fin de l'année. J'ai laissé passer cette histoire. Et l'année d'après, elle n'était plus là, cette prof de mathématiques. Donc, je ne l'ai plus revue et voilà. Et maintenant, ça va mieux.
Encore une fois, c'est t'encaisses. Et tu me disais aussi qu'à partir de ce moment-là, notamment avec la directrice dont tu nous parlais juste avant, tu essaies de te faire le plus discrète possible. C'est ça.
Ouais. En fait, automatiquement, quand tu portes le voile, il tombe dans le viseur. Même si tu fais rien, t'as les meilleures notes, t'as le meilleur comportement, t'as aucune absence, ils tombent dans le viseur. Et s'ils veulent. Un rien, ils vont te le faire. Un rien, s'ils trouvent un tout petit truc, ils vont te le faire subir. Et en fait, t'es obligée d'être vraiment la plus discrète possible et te faire tout petite. Mais l'année dernière, à la fin de l'année, je me suis dit, ça y est, j'arrête l'école. Et j'étais arrivée à un stade, j'en pouvais plus. Je me suis dit, l'année prochaine, j'ai encore ces profs. J'arrête l'école et tout. Je peux pas. Je préfère privilégier ma santé mentale que resubir ça. C'était vraiment de l'harcèlement par rapport au professeur vis-à-vis de moi, par rapport aux surveillants. Parce qu'une surveillante, un jour, il pleuvait. Donc, logiquement, on a tous nos capuches. Et là, à la sortie des cours, j'allais sortir. Elle me dit, tu t'enlèves ta capuche. Je dis, mais il y a tout le monde qui a sa capuche. En plus de ça, il pleut et tout. Donc, elle regarde tout le monde et elle leur dit, bah écoutez, si vous refusez tous d'enlever votre capuche, bah, je vais monter Nesrine à la direction. Ça va être elle qui sera...
Qui va tout prendre.
Voilà. Bah, pourquoi? Pourquoi moi? Alors que bah, pourquoi c'est pas tout le monde qui prend? Et donc, du coup, ils ont tous cédé. Ils ont tous enlevé. Moi, j'ai enlevé. On est sortis. Et voilà. Mais j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Et je me suis posée. Je me suis dit, bah, j'arrête ou pas? Mais bon, vu que c'était... J'avais juste l'année terminale à passer. Après, c'est le bac. Je me suis dit, bon, peut-être que en fait tu peux encore subir une année de plus et après c'est bon.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu préférais arrêter l'école ou subir plutôt que de retirer le voile par exemple.
Ouais, vraiment, parce qu'en fait je me suis dit, si je le retire, ça va être encore pire. Parce que le fait déjà de le retirer dans la rue, je me sentais pas bien. Alors là, le retirer complètement, je me suis dit, mais ça va être encore pire. Déjà, tout ce que je vis, c'est horrible pour moi. Ça a été très compliqué. Je rentrais tous les soirs, je pleurais. Ça a été très compliqué. Je me suis dit, si je l'enlève, ça va être encore pire. Ça va être pire. Et j'ai préféré ne pas l'enlever et réfléchir par rapport à est-ce que j'arrête l'école ou est-ce que je continue et tant pis, que je continue que un an.
Fanny, après, avec tous ces témoignages par rapport à l'école, est-ce que là on peut parler d'harcèlement ?
Moi, je pense clairement qu'il s'agit d'harcèlement. Il y a certaines situations que Nesrine raconte où, à mon avis, si ça avait été porté devant la justice, ça aurait été vu comme du délit. Et puis, le fait, c'est extrêmement choquant pour moi, même en tant que psychologue, d'entendre que quelqu'un dans le monde scolaire où on est censé apporter un soutien, aider les étudiants à devenir, que quelqu'un puisse faire référence à la maladie de la maman de Nesrine, en fait, c'est eux finalement le problème. C'est eux qui ont dû rajouter un poids à la maman de Nesrine. Et en plus de ça, dans les grandes épreuves, notamment la maladie, on sait que ça peut être très tuteur et important d'être connecté à sa spiritualité. C'est pour ça qu'on va voir souvent les catholiques qui vont porter une croix à ce moment-là, ils peuvent remettre une croix, ou dans d'autres confessions, il va y avoir des espèces de rituels qui vont aider à traverser l'épreuve. Moi, je peux très bien imaginer que Nesrine, dans ce moment-là de sa vie, le voile, ça lui apporte un espèce de lien à sa spiritualité qui soit rassurant dans cette épreuve qu'est le cancer, par exemple. Et donc, cette femme qui vient toucher à ça, elle ne se soucie à aucun moment de la santé mentale de Nesrine. À aucun moment, elle se dit que, imaginons que Nesrine ait écouté ça et soit rentrée chez elle et se dise « oui, c'est compliqué qu'elle ait enlevé le voile », elle aurait peut-être complètement déstructuré Nesrine et ce qu'elle essaye de faire en tenant debout. Elle aurait touché à une situation familiale compliquée, parce que parfois la maladie, bah, c'est compliqué. Donc vous voyez, en fait, c'est des actes graves. C'est des actes graves. C'est ces adultes qui ne connaissent rien à ce qu'ils sont en train de juger. Ils ont été biberonnés à BFM ou je ne sais quoi, et ils ne connaissent littéralement pas les jeunes et ce qu'ils sont en train de vivre dans ces traversées du côté de la spiritualité. Qu'on veuille finalement essayer d'empêcher, peut-être qu'il y a une minorité, moi je ne les connais pas, ces femmes qui porteraient le voile par politique. Clairement, je ne les connais pas et pourtant je suis très insérée dans la société française. Mais imaginons qu'il y ait 0,005% de femmes qui feraient le choix du voile par politique. Ok, qu'on veuille protéger ces femmes-là parce que c'est très jeune et puis il faut une autonomie de pensée, ok. Mais là, ce qu'on est en train de créer dans la société, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on crée dans la société, c'est du traumatisme. Parce que finalement, très jeune, je trouve que Nesrine a été soumise finalement à de la discrimination, à du délit de faciès, parce que ce que tu décrivais tout à l'heure, Nesrine aussi, je reviens sur ce point, toutes les personnes où l'origine se voit, où ça se voit qu'elles sont, par exemple, d'origine maghrébine, et puis que donc on peut penser qu'elles sont musulmanes, même si elles ne portent pas le voile, on les a empêchées, par exemple, de revêtir certaines robes, certains manteaux. Mais ça aussi, c'est grave, parce qu'en fait, n'importe où ailleurs, ce serait du délit de faciès. Et en France, c'est autorisé. Autorisé plus ou moins, parce que je pense que si on porte ces situations devant la loi, il y aurait quand même, je pense, des condamnations, j'espère. Mais en tout cas, la société française a été habituée petit à petit, petit à petit, petit à petit au pire. Et aujourd'hui, tu parlais de santé mentale. Je pense vraiment qu'on a traumatisé une partie des citoyens français et pas que les musulmans, parce que quand on parle aux Français, par exemple les 20-25 ans, ils vont parler de cette espèce d'impression de stigmatisation constante, où on va souvent dire qu'en France, les gens se regardent beaucoup, se jugent beaucoup. Mais ça fait partie de cette espèce de traumatisme finalement que nous, Français, aujourd'hui, on porte. Parce que moi, clairement, quand j'entends ça, ça me traumatise. Ça me traumatise parce que je me dis qu'à l'instant même où nous sommes en train de discuter, et où Nesrine, tu dis que ça va mieux maintenant, donc peut-être que tu es allée vers ta liberté, il y a d'autres jeunes filles qui sont justement dans ces institutions, qui sont censées apporter égalité, liberté, autonomie et pouvoir. Et en fait, finalement, ce qu'on est en train d'apprendre aux jeunes femmes et aux citoyens, de manière générale, dans les écoles, c'est que selon ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent et d'où ils viennent et leur origine, eh bien, ils n'ont pas le droit de penser d'une certaine manière, se vêtir d'une certaine manière. Donc, on crée des citoyens de seconde zone. Je trouve ça profondément grave. C'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à s'opposer et arriver à tous, quand on le peut, avoir des métiers à pouvoir pour pouvoir changer la donne. Parce que je voudrais rajouter un point rapidement à Loïc.
Bien sûr.
Le problème aussi en France et dans d'autres pays d'ailleurs, c'est que ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Aujourd'hui, par exemple, les recherches académiques vont s'appuyer sur certains chercheurs qui ont écrit. Alors, moi, je m'oppose, par exemple, je m'oppose complètement aux théories par exemple, d'un chercheur qui s'appelle Kepel, que je trouve, il y a une espèce de fondement islamophobique, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit. On ne peut pas nier qu'il a fait une production, il a écrit, donc en fait, il a une thèse, on s'oppose, on est d'accord, en tout cas, ça existe. Et s'il n'y a rien qui fait contrepoids, s'il n'y a pas des chercheurs qui s'opposent, qui écrivent, qui disent ce que c'est que l'islam, qui font vraiment des recherches académiques, et bien finalement, on est en train de transmettre une histoire qui est erronée. L'islam est mal vu parce que mal connu. Et donc, finalement, on est beaucoup à dire, à taper du poing, à crier qu'il y a une forme d'islamophobie. Mais s'il n'y a pas d'écrit qui fasse contrepoids, eh bien, dans 50 ans, par exemple, cette partie-là de l'histoire, elle s'oubliera peut-être. Et finalement, il restera ces recherches qui disent des choses extrêmement fausses. Là, il y a une autre chercheuse, je n'ai plus son nom en tête, et peut-être tant mieux, parce que je ne pense pas qu'il faille la lire, qui vient du CNRS et qui a écrit un livre que je me suis forcée à lire sur les frères musulmans. Et donc, elle, ce qu'elle dit, c'est que toutes les femmes qui porteraient le voile en France, jeunes filles, seraient issues des frères musulmans et auraient une volonté de politiser la France et donc d'envahir la France. Bah déjà, c'est une thèse que je trouve complotiste. C'est aussi une thèse qui pense que l'autre est constamment un envahisseur. C'est névrotique, mais ce n'est pas étayé sur la réalité de notre société. Mais son livre, on en a beaucoup parlé. Et en fait, en face, il n'y a pas vraiment de penseurs ou d'ouvrages qui fassent contrepoids. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut vraiment travailler, qu'il y ait des académiciens, des personnes comme Nesrine, une fois qu'elles prennent leur place eh bien, de manière professionnelle, qu'elles écrivent, qu'elles disent, qu'elles tapent du poing pour qu'il y ait ce contrepoids. Mais ça demande aussi qu'en France, on arrête de rendre silencieux les chercheurs qui font leur travail de ce côté-là, parce qu'en France, on ne peut pas tout dire, malheureusement.
Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a les institutions aussi un peu qui couvrent tout ça, j'ai l'impression, et même qui, bah, pour en revenir avec la loi sur la baya, qui un peu ouvre la porte au bah, allez-y, c'est permis, vous pouvez stigmatiser, vous pouvez faire du délit de faciès, comme tu disais.
Oui, mais quand tu regardes de qui vient la loi sur la baya, quelqu'un qui est très jeune, qui à mon avis se connaît mal déjà lui-même, connaît mal la société, et tout content d'aller sur les plateaux en disant que c'est quelque part cette loi, les Français la veulent, les femmes en ont besoin. Et encore une fois, c'est du paternalisme, c'est de la subjectivité. Et vous voyez à quel point finalement, quand on a du pouvoir, on peut vraiment déclencher des drames. Parce que cette personne qui a imposé cette loi sur la baïa, enfin qui l'a déclenchée en tout cas, qu'est-ce qu'elle a en plus que d'autres ? Simplement son bout de pouvoir. Et à partir de son bout de pouvoir et de son ignorance, il change le chemin de milliers de personnes. Donc le contrepoids, ce serait que des personnes du côté du bien prennent du pouvoir et changent aussi les choses. Et on le sait peu, parce qu'on en parle peu, mais il y a beaucoup de personnes en France qui se battent pour essayer de faire passer des lois. Mais là aussi, tu vois, les institutions ne nous apprennent pas que les lois, on peut se battre pour les faire changer. Donc en fait, on subit. Beaucoup quittent la France parce que les gens n'en peuvent plus, alors que peut-être il faudrait arriver à trouver un moyen de rester et de se battre pour que notre société soit plus juste.
Je voudrais revenir sur la santé mentale par rapport aux jeunes. Tu disais que ces adultes référents, ces professeurs, CPE, directeurs ou directrices d'école ne se rendaient pas compte du poids de l'importance de leurs mots face à Nesrine notamment. Et est-ce qu'il faudrait justement former ces gens-là sur la santé mentale des jeunes ?
Oui, il faut les former sur la santé mentale, mais aussi sur la spiritualité. Parce que là, il y a quand même une grosse problématique qui fait qu'on a politisé un espace qui était l'espace de l'intime. Et que donc, forcément, on a une césure entre le réel et ce qui est fantasmé. Donc, il faut les former sur la santé mentale. Mais si on les forme sur la santé mentale et on leur dit « attention aux mots, attention aux traumas, attention à ce que tu crées », ils ne vont pas comprendre non plus que... Parce que pour eux, pour certains... Moi, j'ai des fois des dialogues avec des personnes qui sont très bien, mais qui, enfin, c'est-à-dire, c'est des personnes qui ont une éthique de vie, c'est de belles personnes, de belles âmes, mais ils vont dire, oui, mais le monde scolaire, c'est pas le monde du religieux, il faut que les femmes, elles puissent faire leur choix par après, et donc cet interdit, il est légitime, et donc en fait, il y a des personnes très bien qui sont convaincues que c'est légitime de pouvoir, par exemple, empêcher une personne qui porte le voile de passer un examen, ou quelque part, d'imposer à la femme une certaine manière de se vêtir pour être sûre qu'elle n'est pas en train de se cacher par souci politique ou religieux. Donc déjà là, il faut quand même... Pour moi, c'est une pensée endoctrinée, ça. Il faudrait déjà désendoctriner ce chemin-là. Donc parler du judaïsme, de l'islam, du catholicisme, des grandes religions, de la spiritualité et de l'intime. Il faut refaire ce qu'était la religion avant, à savoir la sphère de l'intime. Et la santé mentale, c'est vraiment le paysage agrandi de tout ça. Notre santé mentale, c'est qui l'on est, notre identité, notre société, nos différentes identités. Donc si on veut effectivement que le personnel dans les écoles et les tuteurs et les professeurs comprennent mieux ceux qu'ils doivent accompagner. Il faut, à mon avis, les former sur la santé mentale, mais aussi sur les divers sujets qui posent problème. Parce que même la délinquance, hein, je fais un petit lien, ouais. La délinquance, il faudra aussi former les professeurs sur la question de la délinquance. Parce que, par exemple, la délinquance a une origine. On le sait aujourd'hui que ça peut être du trauma, des situations familiales très difficiles. Et donc, quand on a des professeurs qui vont de plus en plus exclure, par exemple, un enfant qui a des problématiques de comportement, en fait, on isole là où il faudrait aller le chercher. Donc, dans plein de sphères, finalement, la problématique de la santé mentale rejoint une problématique plus vaste qui est le fait qu'on n'apprend pas aux professeurs à se positionner sur certaines situations. Et donc, pour moi, si on revient sur la question de l'islamophobie, ce serait difficile, pour l'instant, je pense, puisqu'il y a un gros contexte d'islamophobie en France, de faire accepter aux professeurs et à l'institution qu'il y a un racisme institutionnel à prendre en compte. Et pourtant, on en a vraiment besoin, parce que Nesrine en est née la preuve. Et je pense que vos générations, à mon avis, sont traumatisées. Et je ne sais pas ce que ça va donner pour les plus jeunes, je ne sais pas ce que ça va donner dans quelques années, mais il y a vraiment un gros trauma, je pense, installé par rapport à cette islamophobie institutionnelle qu'on voit partout, même dans le monde judiciaire, même dans le monde des métiers à pouvoir. En fait, l'islamophobie, aujourd'hui, on la voit partout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à avoir des garde-fous du côté de la psychologie, mais aussi, j'insiste, du côté de la justice, puisqu'en France, il y a des droits.
Merci beaucoup, Fanny. Pour finir cette émission, j'ai envie de parler aussi de la communauté musulmane. Comment toi, ça s'est passé du moment où tu portais pas le voile au moment où tu portais le voile? Est-ce que les regards étaient différents? Est-ce que les comportements étaient différents?
Alors oui, vis-à-vis de la communauté, ça a été... Enfin, je m'y attendais. Hein. En fait, quand tu portes le voile, tu es directement associé à être musulmane, c'est logique. Parce qu'une femme non voilée, tu peux pas dire ouais, elle est telle religion, elle est telle. Donc, t'as cette image parfaite. Tu dois être parfaite et on doit rien te reprocher. Donc, ça a été compliqué dans le sens où on me disait t'es voilée, tu fais ci, t'es voilée, tu te maquilles, tu peux pas, t'as pas le droit, vu que t'es voilée, t'as pas le droit. Alors que non, genre, je fais ce que je veux, déjà. Et ça a été... En fait, je m'y attendais parce que je connais ma... Enfin, on sait comment elle est, notre communauté. Entre nous, enfin, entre musulmans, on sait à quoi s'attendre. Et aussi, on m'a aussi beaucoup dit que c'est un effet de mode et que j'allais le retirer une semaine après, alors que ça fait bientôt 2 ans que je suis voilée.
Et juste que t'as subi.
Mais bah oui. Et en plus, j'aurais pu le retirer. J'aurais vraiment pu le retirer et ça n'a vraiment pas été un effet de mode. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont cet avis-là. Mais en fait, tu ne peux pas te permettre de dire à une personne qui le porte, bah, c'est un effet de mode parce que déjà, ça la touche, la personne, parce que c'est son choix. Et tu ne peux pas te permettre de lui dire, bah, c'est un effet de mode. T'es voilée, tu fais ci, t'es voilée, tu fais ça. Bah non. Enfin, je ne sais pas, c'est méchant. C'est vraiment méchant de dire à quelqu'un, j'accepte le rappel. Mais... Il y a des rappels, il y a des manières de le dire. Parce qu'en fait, le fait de me le dire dans un... Déjà, t'es voilée, tu te maquilles, je le prends mal. Ouais. Parce que, bah, en fait, j'ai le droit de me maquiller. Enfin, je sais que c'est un péché, mais j'ai quand même le droit de me maquiller. C'est pas parce que je suis voilée que je me maquille. Ou alors, t'es voilée, tu sors la nuit. Bah non, je sais pas. Fin...
Et aujourd'hui, qu'est-ce que... Si tu voyais Nesrine d'il y a 2 ans, toi aujourd'hui, avec ces 2 ans passés, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Et notamment, enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes filles qui prennent le même choix que toi?
Alors, je leur dirais que c'est bien de se voiler, mais qu'il faut vraiment prendre un temps de réflexion, parce que en fait, c'est vraiment dangereux pour nous. Déjà, quand tu sors, t'as peur, t'as cette peur constante, t'as ce regard des gens, t'as ce jugement. T'as ces gens qui vont passer à côté de toi, qui vont mal te regarder, qui vont souffler. Faut vraiment, je vais pas dire être forte mentalement, parce que personne n'est vraiment très fort mentalement. On a tous des faiblesses, si je peux dire ça comme ça. Et vraiment prendre un temps de réflexion. Et au pire, bah, si vous l'enlevez, bah, vous l'enlevez et voilà. Mais j'espère, oui. Mais j'espère que vous l'enleverez pas. Mais même si vous l'enlevez, bah, c'est votre choix. Et j'espère que ça vous pèsera pas. Et voilà.
On arrive à la fin de cette émission, ça passe beaucoup trop vite. Et Fanny, toi, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces jeunes filles et même ces jeunes hommes musulmans en France pour arriver à combattre l'islamophobie et à passer outre?
De prendre leur place et de ne pas se laisser définir par le regard de ces autres qui ne les connaissent pas vraiment. Mais la place, non pas que d'être musulman, mais aussi être social, la pluralité des identités. En fait, quand on est français et musulman, on est aussi français. Donc, toute cette identité-là, elle existe. Et on peut, par exemple, Nesrine tout à l'heure, quand elle disait que c'est un péché de porter le maquillage, mais par exemple, dans l'islam, il y a quand même plusieurs écoles et certaines écoles posent le fait que ce n'est pas un péché. Par exemple, on peut mettre certains types de maquillage. Donc là aussi, encore et toujours, l'ignorance va amener au jugement, va amener à des problématiques. Et donc, je pense que prendre sa place, c'est se donner les moyens du savoir et donc pouvoir s'affirmer et donc pouvoir décider et donc pouvoir être une voix qui compte. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faut construire un espèce d'éveil citoyen. Et que donc, tous ceux qui vont... Parce que c'est une tentative de résumer Nesrine et d'autres à leur identité musulmane, alors que, en fait, toute personne est bien plus. Et que donc, on a à gagner, chacun dans cette société, à bien se connaître pour être capable, après, en collectivité, de prendre une place, donc de français, avec ses identités religieuses, mais quand même exiger une certaine forme de respect. Parce que, par exemple, Nesrine, toi, tu appartiens à ce pays, ton identité compte, qui tu es compte, et donc prendre ta place, c'est finalement que certains soient obligés de se taire et ne puissent pas comme ça s'imposer dans ta vie à toi en posant un regard d'ignorance. Donc pour moi, prendre sa place, c'est très important et c'est ce qui va permettre de combattre l'islamophobie, parce qu'on combat l'islamophobie en apportant du savoir sur ce qu'est l'islam et sur ce que c'est que être français et musulman.
Eh ben merci beaucoup Fanny pour ces mots toujours aussi complets et bienveillants. Merci Nesrine
pour
ton témoignage. Merci d'être venue, merci d'avoir ouvert la parole. Et vous avez choisi un son du coup en commun, Fanny et toi. C'est quel son?
Alors on a choisi de Tariq Ramadan un son sur la Palestine et les enfants de Palestine parce que dans le contexte actuel, effectivement, je pense que ça correspond bien à une voix qu'il faut entendre.
Et oui, on s'écoute Tariq Ramadan, Les enfants de la Palestine. Et on se retrouvera lors d'une prochaine émission de On en parle sans tabou sur Mon Paris FM. Merci à toutes et à tous de votre écoute.
Comment pourrez-vous nous expliquer et justifier votre lâche silence quand vous savez que des enfants sont emprisonnés dans l'indifférence? Chaque année, par centaines, ils finissent en prison, isolés et torturés, à 12, 13 ou 15 ans. Leur crime est de jeter des pierres pour leur liberté. On devrait croire que cette armée d'occupation est la plus morale du monde. Dans les territoires volés et occupés, les soldats israéliens martyrisent sans honte. Ils détruisent des maisons, tuent des enfants innocents et protègent les colons armés qui continuent à voler la terre et à nier aux Palestiniens leur mémoire et leur humanité. Elles s'appellent Dima ou Ahed, elles ont 12 ou 16 ans et ont connu la prison, sans armes, avec le seul courage de leur cœur, portant l'héritage de leur nation. Elles ont fait face aux soldats arrogants et armés qui étaient venus les arrêter, et les journaux du monde se taisent et confondent l'État terroriste et les terrorisés. Ils font la guerre aux enfants comme s'ils avaient peur de l'avenir et du temps. Il faudrait tuer leurs espoirs en répandant la peur, la terreur, la torture et le sang. Le monde critique ces mamans immorales qui laissent leurs enfants jeter des pierres et se tait quand un État enseigne à ses soldats que les enfants sont des cibles de guerre. Elle est belle et forte, cette armée israélienne. Elle s'est tuée sans laisser la moindre trace. Au point que tous les pays du monde lui achètent par millions cette technologie efficace qui permet de surveiller les masses, d'éliminer à distance et rend les sales guerres propres. Ils ont le savoir-faire et la méthode au point de faire du profit sur le mal qu'ils exportent. Ils s'appellent Hassan ou Mohammed. À 13 ou 15 ans, ils sont morts ou en prison. Sans armes, avec le seul courage de leur cœur, portant l'héritage de leur nation. Le premier fut torturé, le second a jeté des pierres. Une balle dans la tête l'a tué. Et les journaux du monde se taisent et confondent l'État terroriste et les terrorisés. Nous pourrons faire semblant de ne pas voir cet apartheid, ce racisme institutionnalisé, cette arrogance et ce mépris qui terrifient le monde qui n'ose plus rien dire ni condamner. Tout est permis à ces dirigeants hautains qui ont déshumanisé un peuple et son identité. Ils crieront au scandale, à l'antisémitisme déclaré de tous ceux qui oseront les critiquer. Vous nous invitez aujourd'hui à transformer cet ignoble conflit en cause humanitaire. Construisons des écoles, des hôpitaux, envoyons de l'argent, soyons bons et solidaires. Qu'importe si l'armée d'occupation les détruit chaque année, à chacune de leurs guerres. Il faudrait cesser de parler de colonisation, de la terreur et du vol planifié de la terre. Et si désormais c'était le contraire? Et si justement il ne fallait plus se taire? Ils s'appellent Dima, Ahed, Mohammed, Hassan, Rachel ou Tom. Jeunes, ils résisteront, sans armes, avec le seul courage de leur cœur, portant l'héritage d'une digne nation. Les médias du monde peuvent bien faire mine de confondre l'État terroriste et les terrorisés. Et l'État peut bien opprimer et tuer en silence. Rien n'arrêtera leur marche vers la liberté. Mandela, qui un jour fut diabolisé et enfermé, l'a dit et répété avec force, sagesse et dignité. Ils ne sont pas terroristes, les justes résistants. Ceux qu'il faut condamner, ce sont les occupants. Il était prisonnier, il devint président. Un rappel pour qui réfléchit et comprend. Il était prisonnier, il devint président. Un rappel pour qui réfléchit et comprend.